R22 Radio, tout le monde et autres.
Les allumeurs, du Crében.
De notre rencontre avec le groupe d'action artistique Les Allumeurs en partenariat avec le média L'Insatiable et la radio R22 Tout Monde du Crében autour des cultures roms et gitanes. Nous poursuivons avec un débat avec l'intervention d'Anna Pitoun et Valérie Mito, réalisatrice, de Tania Magy, artiste plasticienne, Gaby Jiménez, artiste peintre, Sylvie Glissant, l'Institut du Tout Monde, Zaza Mercury, Les Allumeurs, et en modération, Nicolas Roméas.
Quelle chance sous ces belles paroles, rien que pour nous. Et le thème, me rappelle Zaza, c'est le frottement des cultures. Que produit le frottement ? Ces formes artistiques qui se transforment et s'inventent par le frottement des cultures. En fait, on tourne depuis le début, puis depuis même avant, autour de cette idée dont Édouard Glissant a quand même bien fait ressurgir la forme particulière, parce qu'on parle de ces choses, on tourne autour, on sent bien qu'il y a quelque chose de très très important dans ces rencontres qui produisent tout d'un coup quelque chose de nouveau. On le sait tous, puisque l'histoire du jazz, par exemple, est une histoire qui passionne un certain nombre d'entre nous. Et si on reprend cette histoire depuis l'esclavage dans les plantations d'Amérique du Nord, etc., avec le blues, jusqu'à cette rencontre avec les cultures occidentales qui a produit cette chose absolument nouvelle, absolument inattendue, absolument différente de tout ce qu'on connaissait, qu'on appelle le jazz. C'est très clair que ça correspond exactement à ce que Édouard Glissant appelle la créolisation, comme on disait tout à l'heure, de la mondialité qui est l'inverse, en tout cas des effets sur l'être humain et sur ce qu'il produit de la mondialisation, c'est-à-dire l'inverse de la standardisation. On voit bien avec le jazz, et puis alors en ce qui concerne les cultures roms, on en a déjà parlé tout à l'heure, aussi bien dans l'Est de l'Europe que dans le monde hispanique, on voit très bien que des formes ont surgi qui sont issues d'un choc de rencontres qui n'existaient pas avant, qui sont une troisième chose, non pas un métissage, non pas quelque chose qui serait lissé, mais une chose nouvelle, différente. Donc on tourne autour de cette question et il se trouve que cette question donc a été au centre des travaux d'Édouard Glissant, qui lui-même venait donc d'un archipel des Caraïbes et qui a développé sa pensée de philosophe, de penseur, d'écrivain et de poète autour de cette notion d'archipel. C'est-à-dire, c'est pas seulement des îles distinctes, c'est pas seulement des cultures refermées sur elles-mêmes, c'est des choses qui sont reliées par des passerelles et qui finissent par créer quelque chose comme, certainement que créolisation, ça a quand même à voir avec la formation des langues créoles au départ, hein, puisque le mot vient de là, une nouvelle langue qui existe, mais qui est fabriquée de la rencontre de plusieurs langues. De plusieurs langues, je veux dire, notamment en ce qui concerne ces archipels, des langues autochtones qui préexistaient, et puis des langues originaires, notamment d'Afrique, qui sont arrivées avec l'esclavage, et puis de la langue dominante, l'anglais d'un côté et le français de l'autre, notamment. Pour ce qui concerne ces créoles-là des Caraïbes. Donc c'est ça dont on voudrait parler.
Parce que nous avions aussi Sylvie Glissant, qui n'est pas parmi nous en chair et en os, mais qui nous avait laissé une petite
Quelques mots justement sur la créolisation. Je me dis que peut-être qu'on pourrait.
Donc, Sylvie Glissant, c'était la compagne d'Edouard pendant une grande partie de sa vie, et c'était aussi quelqu'un qui a énormément travaillé avec lui. Et maintenant, elle dirige l'Institut du Tout Monde. Il se trouve que l'Institut du Tout Monde est, par une sorte de coïncidence extraordinaire, comme le destin sait en produire, se trouve à Aubervilliers. Donc, j'ai dit ça par rapport au numéro de l'insatiable papier que nous avons fait sur Aubervilliers. Nous avons retrouvé l'Institut du Tout Monde, donc, qui a été fondé, je crois, en 2005 par Édouard Glissant et que Sylvie Glissant dirige aujourd'hui. Il se trouve à Aubervilliers, pas très loin du local des souffleurs, qui sont des poètes en acte d'Aubervilliers magnifiques. Donc, il y a toute une série de coïncidences qui a fait que on voulait absolument échanger avec Sylvie, qui en était tout à fait d'accord. Vous savez que cette rencontre a été reportée parce que la précédente, il y a plusieurs mois, a été empêchée par non pas les Gilets jaunes, mais les forces de police qui réprimaient les Gilets jaunes dans le grand boulevard Sébastopol qui est à côté. Et donc, on a été obligé d'annuler. On a repris aujourd'hui. Elle devait être là. Et il y a 3 jours, elle a été invitée pour un grand colloque aux États-Unis, donc où elle est maintenant. Et juste ce jour-là. Donc, nous lui avons demandé de nous dire quelques mots et nous l'avons filmé.
Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à la Gaîté Lyrique par le biais de cette petite caméra. La thématique de ce soir autour du frottement des cultures, peut-être de ce que nous avons à faire ensemble, hein, de ce qui nous relie, nous relaie, m'a fait penser que peut-être je pouvais évoquer ce qu'Edouard Glissant appelle la créolisation. La créolisation, ce n'est pas en fait ce qui est forcément créole, mais elle rencontre d'un processus. De la rencontre du divers, de la rencontre peut-être du multiple, de formes hétérogènes, de formes qui n'ont rien à voir ensemble et qui, à un moment donné, viennent en présence et transforment, modifient le lieu, modifient les personnes, modifient les regards et les gestes. Je pense que la créolisation rencontre avant tout de ce qui se crée, de ces gestes de création qui peut-être pour nous sont les formes les formes de notre liberté, les formes qui font que on sort des systèmes clos, qu'on sort des définitions, des catégories, des registres. C'est ce que nous avons envie peut-être de dire à l'autre, et c'est aussi peut-être la forme de l'hospitalité. L'hospitalité qui est à la fois ce qui fait que l'on accueille l'autre, qui est aussi pour le fait que nous sommes accueillis par l'autre. C'est-à-dire ça témoigne d'un échange. Quand on pense aux communautés roms, pour moi, ce sont les communautés peut-être qui sont les plus multiples au monde. Enfin, je pense qu'on a rarement eu des communautés aussi multiples. On les rencontre effectivement, on en rencontre évidemment au Brésil ou dans certaines régions comme ça, mais la communauté rome est vraiment ce qui est la plus insaisissable parce que la plus complexe peut-être. Parce que la plus différente, la plus multiple. Et je pense qu'elle le paie assez cher, parce que c'est une. On l'a réduite à beaucoup d'invisibilité. Il est important pour moi de remettre un peu en valeur tout ce que produit ce multiple dans ces communautés, et notamment à travers l'art, à travers les chants, à travers la musique. C'est certainement plein d'enseignements pour nous. Je pense que ce divers, voilà, ce multiple, s'exprime beaucoup à travers les formes de l'oralité, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas fixées. L'oralité, c'est évidemment c'est la parole, c'est le geste, c'est ce qui évolue, ce qui crée, ce qui se modifie peut-être le plus au contact de l'autre. Elle s'adapte énormément, si vous voulez, aux espaces existentiels des personnes. Les communautés roms, puisqu'on parle de ça, hein, elle crée à chaque fois un nouvel espace, un nouveau lieu. Je pense que ce qui est important, c'est qui est propre des gestes de création. Des artistes, mais pas seulement des artistes, de tout geste de création, c'est d'ouvrir un lieu, de créer un lieu, et ce qui devient un lieu commun. Peut-être que ce soir, la Gaîté Lyrique est ce lieu commun qui va produire ce nouvel espace de liberté pour nous tous. Merci.
Donc, Sylvie Glissant à distance, hein, mais vraiment présente parmi nous. On entame ce débat. Donc, je disais que je n'osais pas présenter Gaby, parce qu'il n'est jamais d'accord avec quoi que ce soit qu'on dise sur lui. Et donc, je voudrais le laisser se présenter.
Alors, je m'appelle, comme il vient de dire, hein, Gaby Jiménez. Je suis artiste des arts visuels. C'est artiste-auteur des arts visuels. C'est exactement la bonne dénomination. Alors ça sous-entend les arts plastiques, la peinture, la sculpture, tout ce que vous voulez, on met dedans. Et bah, vous voyez un petit peu, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Et voilà, je suis issu de la communauté gitana, exactement. Mes parents viennent d'Espagne, ce sont des gitans d'Espagne. Et puis moi, je suis né en France, ma famille elle est en France, en Espagne, en Catalogne, à Perpignan. Enfin, j'ai tout le trajet migratoire, ma famille elle est là, quoi. Jusqu'en France, ici, et à Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai vécu ensuite 16 ans à Arles pour revenir encore en région parisienne. Que dire d'autre ? Mon travail, il est maintenant reconnu dans le monde de l'histoire de l'art. Notamment, il est rentré dans les annales, dans les catalogues. Moi, j'ai une cotation, je ne sais pas quoi dire. Une cotation parce que mon travail, il est... Comment ? Alors, ma cotation, elle est exactement de 0,23 centimes le centimètre carré. C'est exactement ça. Parce que j'ai des tableaux des œuvres qui ont été vendues aux enchères, et c'est l'adjudication du commissaire priseur qui fait la cotation. À tel format, telle valeur, donc tout va en cascade, quoi. Que dire, oui, comme disait ma collègue et amie Tania tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire la Biennale internationale d'art contemporain de Venise, qui est en fait c'est les Jeux Olympiques en fait de l'art. Hein. Bon, j'ai été là-bas, c'était super, c'était très bien. Après, il faut le faire qu'une fois. Après, moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui essayent de le faire souvent, mais bon, une fois, c'est bien. Après, ça fait, on peut pas être en état de hyper-présence. Que dire ? Tout à l'heure, je réagissais tout à l'heure quand on parlait d'art tzigane, d'art gitan, etc. Moi, je pense pas que je fais de l'art gitan et je fais de l'art tzigane. Combien même que ça m'en inspire et que je m'inspire de moi-même et de ce qui se passe autour de ma communauté, mais pas que. Après, de réduire mon travail à de l'art gitan, de l'art tzigane, c'est me rentrer dans un musée folklorique, ethnographique, etc. Et du coup, j'ai plus ma place dans le monde de l'art actuel.
Gaby est donc un exemple parfait d'intégration réussie. non, je plaisante. Anna, tu peux compléter la présentation très succincte que j'avais faite tout à l'heure ?
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de cette invitation. Nicolas, Zaza, grâce à vous, on s'est rendu compte avec Valérie que ça faisait 20 ans, en fait, cette année, quand on a commencé à dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur des documentaires. Donc, nous, on est documentaristes, on fait voilà, ce type de cinéma. On a un groupe de cinéma qui s'appelle Caravane Film. On l'avait appelé comme ça, non pas en référence aux caravanes, à la caravane de Tania, mais aux caravanes dans le désert. La définition des caravanes dans le désert, ce sont des gens qui s'allient, qui se réunissent pour passer ensemble à un endroit hostile ou difficile. Ils se mettent à plusieurs parce qu'ils savent que ça va être compliqué. Donc nous, on avait appelé notre groupe de cinéma Caravane Film. C'est un groupe qui réunit des gens très différents. Donc il peut y avoir des gens qui cadrent, des gens qui font du son, des gens, des psychanalystes, des historiens, des sociologues. Et à chaque fois qu'on décide de faire un film avec Valérie, on en parle tous ensemble dans notre groupe. Et puis chacun aide à l'endroit où il a envie d'aider et ou travaille à l'endroit où il a envie de travailler. Et donc, ça fait 20 ans, on a commencé en 99 à faire des documentaires qui questionnent alors, soit les Roms, soit les gens du voyage. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment voilà, une terminologie qui... Enfin, nous, on se pose la question constamment, on nous pose la question, on pose la question aux gens avec qui on travaille, comment ils ont envie qu'on parle d'eux. Les premiers films qu'on faisait, c'était surtout sur des voyageurs français. On a toujours eu beaucoup de commandes d'associations ou d'institutions. Donc on répondait à des commandes. Parce que vous parliez de ce frottement des cultures, bah, effectivement, ça fait 20 ans qu'on travaille et ça fait 20 ans qu'on vit en propagande. Enfin, tous ensemble, hein, puisqu'on est dans la même société française, ça fait 20 ans qu'il y a une propagande qui dit qu'il y a une question rome. Une question rome hein, qui nous agite, hein, ce serait vraiment problématique, que les gens du voyage, les roms, tout ça, c'est des gens qui ont des modes de vie très différents des nôtres. Alors, ils n'utilisent plus culture. Hein. Manuel Valls, il ne dit pas culture. Hein, ils peuvent pas vivre avec nous parce qu'ils ont une culture trop différente. Ça, ce serait direct au tribunal. Mais il va dire mode de vie. Hein, en 2013, il a dit les roms ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Ils ont donc vocation à retourner en Roumanie ou en Bulgarie. Donc on s'est demandé hein, ce que c'était que ce fameux mode de vie. C'était vraiment une question. Donc voilà, nous, les institutions qui nous ont sollicité, que ce soit la région Île-de-France ou des associations, nous demandaient de travailler à des documentaires où on se rend compte, voilà, où les Roms ou les voyageurs donnaient à entendre des éléments qui les concernaient, surtout en termes de discrimination. On a surtout travaillé sur ces éléments-là. Et donc à chaque fois, notre idée avec Valérie, étant des gadgets, donc pas, enfin, voilà, ne faisant pas partie d'une communauté de tziganes, c'était surtout de travailler avec les intéressés. Donc tous les films, c'est les films institutionnels, en tous les cas, c'est toujours eux qui ont la parole sur les 50, 60 minutes uniquement. Il n'y a pas de sachants, d'experts qui viennent dire ce qu'ils en pensent, comment ça se passe, etc. Donc on a fait un film notamment pour la région Île-de-France qui s'appelait « Des poules et des grosses voitures », qui était un petit documentaire d'une heure. C'était financé par la région Île-de-France qui travaille sur les discriminations et qui disait « Est-ce qu'il y a du racisme anti-gens du voyage en France ?» Donc on est allé voir les voyageurs et on leur a demandé, donc ça les a beaucoup fait rire de rendre compte que des gens se posaient la question. Et on a travaillé ensemble à un scénario où ils expliquaient, ils ont choisi 7 discriminations qui revenaient le plus souvent, les choses qu'ils entendaient le plus souvent. Donc c'est pour ça que le film s'appelait « Des poules et des grosses voitures ». Au départ, c'était des poules et des Mercedes, mais Mercedes n'a pas voulu qu'on utilise son signe, là, c'est dommage. Non, mais voilà, le truc, c'est ça, c'est qu'on fasse partie des voyageurs, qu'on fasse partie des Roms, on entend, on est des voleurs de poules, ils ont des grosses Mercedes, on a des grosses Mercedes, voilà. Donc ils nous racontaient ça, ils l'ont raconté sur 60 minutes, et en essayant de donner à entendre et la douleur, ou l'indifférence, ou les réponses qu'ils mettaient en place pour vivre à travers ça. Et ce film a circulé dans plein d'endroits, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Et à chaque fois, c'était vraiment... Enfin, les gens, les gadgets, en tous les cas, étaient estomaqués de se dire « Attention, là, c'est donc nos concitoyens français qui parlent. » Ils en étaient bouleversés en se disant « Ah oui, il y a ce type de racisme pour des gens qui sont français depuis des générations et des générations. » Donc c'est quelque chose qui est pas très connu, à dire vrai. Voilà, donc on a travaillé sur ça. Et on a travaillé...
C'était en quelle année ?
Ça, c'était 2013.
D'accord, ouais. Donc c'était la précédente région Île-de-France.
Oui, tout à fait. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Valérie pour parler de notre travail sur les Roms d'origine roumaine, avec lesquels on a eu des beaux projets.
Merci. Donc moi, je suis Valérie Mito, je fais aussi des documentaires, comme vous l'avez compris. Donc oui, donc on s'est frotté avec Anna clairement à tout ce qui a trait aux préjugés, aux discriminations, sur un champ un peu plus large, le genre, d'autres choses, les femmes, bien sûr. Alors, en ce qui concerne notre travail avec les personnes roms, donc on a fait deux films. Un premier qui s'appelle Caravane 55, qui est visible en ligne d'ailleurs gratuitement si vous voulez le voir. Caravane 55, donc ça, c'est une histoire qui démarre en fin 2002. Une association, la CHAV, donc qui accueille et domicilie des gens du voyage et des personnes roms à Nanterre, dans laquelle Anna a travaillé comme juriste pendant quelques années, oui. Nous commande un film à vocation pédagogique afin que toute personne rome qui arrive sur le territoire français comprenne le processus pour scolariser les enfants. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, en France, même sans papier, l'école est obligatoire, c'est un droit et un devoir, etc. Donc on cherche une famille, une personne avec des enfants qui envoie les enfants à l'école avec une certaine régularité, etc. On nous indique qu'à Achères, donc une ville à 40 km de Paris, à l'ouest, près de Cergy-Pontoise, beaucoup d'enfants vont à l'école. Donc on se rend là et on rencontre cette femme qu'on ne voit plus, elle est partie, Salkoutsa Filane, qui se prête très très immédiatement au jeu d'incarner la porte-parole pour tous ces les autres personnes roms sur la question de la scolarité. Et donc on est en train de faire ce film. Voilà, on rit toujours avec Anna en disant que c'est le type de film qu'on fait avec de l'argent public, parce que c'était la DAS, notamment, en 95, en même temps que commencent des vagues d'expulsion, etc. Donc c'est toujours très bizarre d'avoir de l'argent public pour dire « Bienvenue les Roms, envoyez vos enfants à l'école », en même temps qu'un formidable ministre de l'Intérieur, dont vous vous souvenez sûrement, ministre Nicolas Sarkozy à l'époque, commence toute une vague d'expulsion. Donc on est en train de filmer ce film à vocation pédagogique et au bout de là, donc est fictionné, Salkoutsa doit dire un certain nombre de phrases en roumanie dans sa langue, de façon à ce que le film puisse circuler sur les terrains et que tout le monde perçoive la logique de la scolarisation. Et on comprend au bout de 3-4 jours en fait, que le terrain va être démantelé, les gens vont être expulsés. Et d'une façon, à l'époque... C'est notre Caravane 55, en fait, c'est notre premier documentaire. Et à l'époque, on n'est même pas, on est vraiment entraîné dans cette histoire. C'est très très instinctif, c'est-à-dire que au bout de 3 jours, c'est clair, le terrain va être démantelé. Donc du coup, on reste là. On pense que c'est important de témoigner de comment ça se passe une expulsion. À l'époque, on en a vu très peu dans les médias. On reste là, on partage l'organisation avec tout un collectif de soutien qu'on découvre d'une puissance et d'une générosité incroyable, qui est dans la nuit en train de se demander comment ils vont faire et s'ils vont prendre des gens chez eux, etc. Et donc en fait ensuite il y a l'expulsion, donc on est sur le terrain au moment de l'expulsion, donc c'est très 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 marquant. Et en fait, donc on fait un premier film avec cette histoire qui continue. Après, on décide de suivre cette jeune femme et ses enfants pour voir comment ils vont évoluer, s'ils vont réussir à rester en France, etc. Donc ça, c'est le premier film, Caravane 55, qui s'arrête en novembre 2003, où Salkoutsa et ses enfants n'ont toujours pas de papier. Et donc, la situation est très, très, très instable. Et puis après, on devient tellement proche de cette famille et des personnes centrales du collectif de soutien, une maîtresse d'école formidable, un maire communiste incroyable, qu'en fait, et le fait, je pense, d'avoir partagé cette nuit d'expulsion avec eux, ça nous a liés, je pense, à vie, clairement. Et du coup, instinctivement, on se dit, ça serait vraiment intéressant de continuer à regarder comment va évoluer leur vie. Et on, donc, du coup, on filme, on continue à filmer tous les grands événements de la vie de cette famille, le premier appartement, le mariage de la fille de notre protagoniste principale. Et on finit par réussir à réaliser cette fresque en fait, qui s'étale sur 13 années, qui s'appelle 8 Avenue Lénine, Heureuse comme une Rome en France, qui est sortie en novembre dernier au cinéma. Voilà.
Ben ça, c'est de la présentation, dis donc.
Et nous aimerions ensuite faire un autre film sur la troisième génération, les petits-enfants de Salkoutsa, le plus âgé à 7 ans. Et on se dit que voilà, au début de la préadolescence, ça serait vraiment intéressant de regarder. C'est évident qu'ils vont vivre, voilà, qu'ils vont. Enfin, si nous n'avons pas bientôt une présidente d'extrême droite qui décide que tous les Roms c'est fini, ils rentrent chez eux, on peut penser que c'est des personnes qui vont avoir des vies très très différentes, quoi.
Donc il y en a une qu'on n'a pas suffisamment présentée, évidemment, puisque c'est elle qui organise aujourd'hui, c'est Zaza Mercury avec les Allumeurs. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ?
Ben oui, effectivement, donc ce Ducreben, qui est le nom de notre projet, donne le nom de cette journée. Alors les Allumeurs, ben, on est plutôt dans l'ensemble des allumeuses, une bande de plasticiennes, et puis on a quelques rares mais vaillants allumeurs qui sont par là et puis qui font des expérimentations sonores tout à l'heure. Nous, on vient d'un lieu de fabrique autogéré, une friche culturelle de proximité qui s'appelle la Villa Médicis et qui est à Aubervilliers. Et en fait, je le précise parce que Aubervilliers, c'est un coin du monde qui est tout à fait particulier, qui pourrait vraiment correspondre à la notion d'Édouard Glissant du tout monde. Alors pour le coup, pour ce qui est du laboratoire du vivre ensemble, on est en plein dedans. Et nous, on y est arrivé il y a 10 ans dans cette ville. Et ça, je pense, complètement changé la donne dans notre manière d'envisager notre travail. Alors on avait depuis longtemps toujours l'idée, d'allumer des petites étincelles dans le cœur, dans la tête, dans les imaginaires de ceux avec qui on travaillait. Et puis dans les nôtres, bien évidemment, parce que bien sûr, ça nous nourrit. Mais là, tout d'un coup, ça a complètement radicalisé notre manière de travailler et ça nous a transformé, peut-être moins que ce qu'on ne l'imagine, mais en griots régionaux modernes, pour employer une expression très mignonne de Nicolas. Donc, dans cette radicalisation, ça a été de questionner sans relâche, avec toutes sortes de gens dans des problématiques de vie assez compliquées, des migrants, des réfugiés, des exilés, des migrants européens, extra-européens, la question de notre place, de notre place à tous et de l'impact que la société dans laquelle on vit a sur nous tous et sur nos singularités. Donc, qui on est pour l'autre, qui l'autre est pour nous, qui on est tous. En somme. Et pour ce qui est de ce projet Ducreben, ça fait donc un an et demi qu'on le mène sur deux sites, l'un à Aubervilliers, un centre d'hébergement d'urgence, et le terrain Voltaire, qui est ce qu'on appelle dans le jargon administratif un campement stabilisé, qui lui est à Saint-Denis. Alors moi, c'est un travail que j'avais commencé en fait en 2012, à l'époque du mandat Sarkozy, toujours Aubervilliers, sur ce qu'on appelait à l'époque des villages d'insertion roms, qui était un dispositif qui a été abandonné depuis par l'État et qui était déjà donc un projet transversal à mi-chemin des sciences sociales et de l'artistique, c'est-à-dire du politique, de la socio, de l'anthropologie, voilà, qui croisait toutes ces choses. Et notre idée, c'est de, dans le cadre donc de ces projets qu'on fait sur les terrains, c'est de permettre la rencontre, permettre que des choses circulent entre nous tous. Et pour le dire beaucoup plus simplement, en fait, c'est de faire connaissance, d'entamer des dialogues, de se découvrir mutuellement, de se regarder, de s'écouter, sans défiance, et surtout de lutter contre un racisme structurel qui est celui de la société dans laquelle on vit, qui la plupart du temps oppose les êtres entre eux plutôt que
plutôt qu'ils ne les rassemblent. Donc tout ça, comme je l'expliquais tout à l'heure au début de la présentation qu'on a fait de la journée, on le fait sous forme d'ateliers de tout poil qu'on mène donc sur les terrains des journées entières, de rencontres, voilà, d'entretiens, d'entretiens avec les gens qui veulent bien nous accorder du temps, d'entretiens filmés, d'entretiens vidéo. Alors c'est des adultes, c'est des enfants, c'est des travailleurs sociaux parfois qui sont sur le terrain. Et en tout cas, c'est de donner la parole à ceux qui l'ont vraiment jamais, à qui on donne jamais le crachoir. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et c'est pour avoir vraiment, pour obtenir une polyphonie de points de vue sur des questions qui sont politiques, mais là, en l'occurrence, sur ce que c'est d'être Rome en France, en fait. Sur une culture qui, je pense, pour reprendre toujours Édouard Glissant, est vraiment une culture du divers. Donc il y a mille réponses à ça, en fait. Comme il y a mille réponses à qu'est-ce que c'est être français sur le territoire français, qu'est-ce que c'est, voilà. Et donc, à nouveau, lutter contre tous les stéréotypes qu'il peut y avoir cristallisés sur ces questions-là. C'est aussi une manière pour nous de décoloniser nos propres esprits aussi sur des questions et des stéréotypes que nous aussi, on a parfois ancrés dans la tête. Donc bon, voilà pour ce qui est de cette manière de travailler. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est très stimulant, c'est très inspirant dans mon travail, c'est très enthousiasmant, mais c'est parfois aussi inconfortable, c'est parfois déroutant, parce que en fait ça pose toutes sortes de questions sur la vision qu'on a des choses et sur la manière dont on a d'intervenir. Donc ça, tous ensemble avec les allumeurs, on se questionne beaucoup là-dessus en permanence. Savoir ce que donne après les projets et ce projet du Kreben, ça aussi c'est difficile à dire. C'est difficile de dire quel objet symbolique et plastique va se créer en fait avec nous tous, puisque c'est de l'expérimentation. Et c'est d'autant plus difficile, je trouve, quand on est dans un contexte de violence sociale, comme ça l'est souvent sur les campements, où ça déplace énormément le geste artistique. Et puis même, moi, parfois, ça me semble carrément complètement dérisoire, en fait. Mais bon, on en a beaucoup parlé, Tania, ensemble. Et puis voilà. Et puis après, ce qui nous intrigue, c'est comment tout ça peut agir sur le monde. Et là, par exemple, on est très peu nombreux aujourd'hui. Et ça, moi, ça me questionne. Voilà. Comment on peut mobiliser, en fait, sur ces questions-là avec un projet artistique, que ça soit un film, que ça soit une œuvre plastique, voilà. Comment on y arrive? C'est difficile, visiblement.
Est-ce que tu penses que l'affichage de ce titre du Kreben est suffisamment évocateur pour suffisamment de gens? Ça veut dire quoi, du Kreben?
Alors, du Kreben, c'était donc la bonne aventure. Alors, non seulement je pense que c'est peut-être pas évocateur, mais on s'est même interrogé sur le sous-titre de cet événement, qui était les cultures roms. Et en fait, qu'est-ce que ça interrogeait vraiment? Qu'est-ce qu'on entendait par là? Voilà. Est-ce qu'on voulait parler d'une catégorie politique? Est-ce qu'on voulait parler d'une culture transnationale qui recouvre toutes sortes de fantasmes de tout genre? Voilà. Et justement, c'est peut-être l'occasion d'en parler et de recouper les questions de créolisation et de frottement des cultures. Et comment Bruno Guichard, qui a fait partie du premier débat, posait très bien la question: comment on peut penser le monde tous ensemble, en fait, simplement, sans parler de créolisation? Parce que moi, je pense que toute relation à l'autre, elle nous impacte, en fait, et elle crée de la relation, elle crée quelque chose qui nous transforme. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça que le monde se construit, et que Édouard Glissant, en fait, il théorise quelque chose qui existe dans le monde, il me semble, et qui existe dans nos sociétés.
Je me disais que c'était biologique au départ, tout simplement, toutes ces réflexions. Là, on les place au niveau philosophique, artistique, poétique, mais biologiquement, la vie, c'est ça.
Le frottement entre différentes espèces, je vais pas pouvoir plus développer, même si j'ai un background un peu scientifique, mais ça m'a fait dire, c'est biologique. Donc peut-être qu'il faudrait inviter aussi quelqu'un dont la discipline est plus scientifique, et que du coup c'est aussi écologique, biologique, la biodiversité.
Oui. C'est-à-dire que les frontières, la nosologie qu'on y met pour essayer de se repérer pourrait être un peu subvertie. Mais c'est bien que vous ayez commencé, comme ça on peut peut-être continuer ensemble à dialoguer, parce que les présentations ont pris un peu le temps du débat, du débat entre nous. Donc on peut faire un débat avec vous maintenant, si vous voulez, sur ce thème, et ce qui permettra d'approfondir les actions des uns et des autres, c'est-à-dire comment est-ce que chacun participe, utilise ou témoigne de frottement de culture. On dit culture, le mot est compliqué à utiliser. Moi, c'est un mot que j'utilise plus, culture. Je peux plus utiliser ce mot qui est source de malentendus permanents. Mais en tout cas, de gestes, d'actions qu'on peut peut-être appeler artistiques la plupart du temps, en tout cas symboliques, qui sont justement le produit de ces rencontres. C'est le thème de notre débat là maintenant. Alors Tania, tu t'es déjà présentée en fait. Je pense que tout le monde a à peu près compris qui tu étais. Pour ceux qui n'auraient pas été là, tu peux en faire la manière la plus succincte.
Disons que tout à l'heure, j'ai décrit ce qui s'était passé pour les Roms de 1968 à 2010. Mais maintenant, je peux préciser quelles sont mes activités au quotidien sur le terrain. Donc, en tant que chercheuse, je mets en place des projets pédagogiques avec des équipes enseignantes ou des équipes d'élus ou de travailleurs sociaux. Et l'objectif, c'est de mener à bien des activités avec des élèves nouvellement arrivés dans des écoles ou inscrits depuis déjà de très nombreuses années. Je me déplace avec une caravane musée. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un vrai musée, ce n'est pas un lieu fixe, ce n'est pas, comme dirait Gartner, une maison de la culture de Malraux. Non, c'est un lieu où j'habite, c'est un lieu où il y a des traces d'ateliers de ce qui a été réalisé auparavant. C'est un lieu où certains artistes nous ont laissé une petite œuvre à voir pour les enfants. Et donc, c'est très pratique de se déplacer avec et de s'installer temporairement, soit dans un quartier ou un établissement scolaire. Contrairement à ce que disait Zaza, nous avons une méthode de travail, puisque ceci faisait partie du cadre universitaire de l'enseignement des arts plastiques de notre cher Jacques Cohen. Et donc, la méthode est la suivante. Détecter des problématiques ou des soucis qu'auraient les enfants ou les familles, extraire un sujet, un thème, et puis réaliser des ateliers où l'on apprend une technique précise. Par exemple, la peinture, la gravure, l'aquarelle, le modelage, la sculpture, la performance, la photographie, la vidéo. Tous ces médiums, tous ces moyens plastiques nous aident à donner aux enfants ou aux familles la possibilité d'exprimer quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et ensuite, nous établissons un bilan rédigé, écrit, qui est ensuite distribué aux élus, et nous mettons en exergue ou en avant ce qui s'est passé pour développer des projets là qui deviennent politiques dans les territoires et sur les communes, en fait.
Peut-être pour aller dans le sens de la créolisation. Moi, j'ai l'opportunité de travailler avec d'autres artistes en Europe et ailleurs même, issus des communautés tziganes. Je préfère utiliser le terme tzigane que rome, parce que rome, ça ne dit rien. Ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, rome, ça veut dire homme marié. Un rome, c'est quelqu'un qui est marié, en fait. On ne dira pas d'un jeune chez nous qu'il est rome parce qu'il n'est pas marié. On dira qu'il est manouche, c'est un manouche. Manouche, ça veut dire homme aussi. Vous voyez, on se désigne, nous, comme être humain aussi. Voilà, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je travaille beaucoup avec des plasticiens et des artistes ailleurs en Europe, et il y a quelque chose qui nous caractérise, et c'est super étonnant, c'est peut-être un peu pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas biologique, mais c'est peut-être ancré dans tout ce qu'on a peut-être traversé, et nous on est des singularités qui sommes des conclusions de toute cette... Toute cette migration depuis 1000 ans, comme tout à l'heure on nous l'a rappelé Bruno, où nous, enfin j'en reparlerai de ça, mais où on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous sont communes. Ça veut dire qu'on a tous travaillé sur des œuvres, sur des choses, et il y a des choses qu'on pourrait dire ah bah ouais, ah bah ça ressemble à ça ressemble dans la couleur peut-être, mais aussi dans la réinterprétation, dans la réorganisation. Des formes, des sons, etc., qui font que on sent qu'il y a une patte gitane, gypsy. Il y a quelque chose qui fait de nous où on reconnaît, où ça fait un peu gitan. Un peu comme vous voyez par exemple à l'extérieur nos accoutrements, vous dites tiens, il est habillé un peu bohème ou un peu comme ça. Et ben ça se trouve dans l'art. Alors vous le voyez pas, mais nous on le voit. Et c'est super flagrant où on voit que en nous on puise des choses qu'on restitue dans un grand tout artistique. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'art gitan, ça n'existe pas. L'art tzigane n'existe pas. Ça n'existe pas. Le fait de vouloir enfermer quelque chose dans quelque chose, c'est une volonté presque politique de dire que nous, on a une identité. Donc forcément, comme on a une identité, on veut aussi montrer qu'on a quelque chose qui sort de nous d'une façon très commune. Alors que tout le monde sait que, par exemple, je cite beaucoup l'exemple de Picasso. Picasso, c'est un peintre espagnol. Est-ce qu'il faisait de l'art espagnol? Je ne crois pas, non. Par contre, est-ce que dans sa peinture, il puisait pas en lui des choses qui faisaient qu'on sentait que quand même il venait d'Espagne? Je pense que oui. C'est là où c'est ambigu. Après, je suis toujours aussi... Moi, je me fais porte-parole aussi de la communauté et d'artistes qui nous on œuvre en Europe, parce que je fais partie aussi de... Vous l'avez peut-être vu hier, tout à l'heure, excusez-moi, j'ai plus la notion du temps quand je vous parle. Quand on a vu là, moi je fais partie d'un courant qui est de l'art impliqué, l'art engagé, l'art social. Je fais pas de la peinture, de l'art pour l'art. Je fais pour dénoncer quelque chose, comme d'autres vont écrire, comme vous, comme toi, dans ton journal. Moi, mon journal, c'est la peinture, c'est l'art en fait. C'est ce côté-là. Et je vois que globalement, les artistes plasticiens issus des communautés tziganes qui surgissent, c'est parce qu'ils sont dans ce même courant-là. Ils dénoncent, ils disent, ils se servent de ça pour annoncer. Un peu comme le flamenco. Le flamenco, c'est pas des chansons d'amour comme ça. Ça dit quelque chose pour ceux qui connaissent le flamenco. Ça, tout est tout. Nous les gitans, je pense qu'on n'a pas encore biologiquement. Là, je pense que c'est encore une question de finition de notre état pour redevenir, pour peut-être réatterrir, avoir les pieds sur terre comme les sédentaires. On n'a pas l'arcane qui nous permet encore de pouvoir prendre du recul peut-être par rapport à nous-mêmes. Donc ce qu'on fait, c'est on le puise en nous et on le restitue dans un grand tout. On le fait pour nous, mais on le fait surtout pour le monde en fait. On le fait. Il n'y a pas un travail pour nous en fait. Je ne sais pas comment ce qu'on fait chez nous, on le fait chez nous. Après ce qu'on fait dehors, c'est pour tout le monde. On se sert. Alors, le terme créolisation, j'aime pas trop non plus ce terme-là, parce que ça sous-entend que c'est fini, que c'est cristallisé et que ça ne peut plus évoluer. Alors que...
Non, c'est pas vrai ça.
Ah oui, mais il faut non, mieux non, me l'expliquer. Vrai, parce que... Après, dans
on
la
te l'expliquera. On te l'expliquera.
Ouais, parce que créolisation, le fait, quand on parle de créolisation, c'est vrai que ça vient de la langue, du créole. Mais le créole, il vient d'un parler, d'un compromis de parler.
Oui, non, c'est au-delà. J'avais dit qu'il y avait sûrement un rapport, mais c'est au-delà de ça. Gabi a l'esprit de contradiction. C'est son moteur. Hein, donc, vas-y, continue.
Oui, je disais que. Au niveau de la tziganité, je préfère utiliser ces termes-là, de la tziganité, elle est bien au-delà des problématiques qu'on peut... Que, par exemple, dans tes films, je pense que tu as du mal à aller au-delà de la situation sociale, en fait. Ouais. Alors que nous, on est bien au-delà de ça. Les faits de société, c'est pas notre résumé de notre vie. Tu sais, quand on était parti en Pologne, on était plusieurs communautés et on s'est quand même entendu sur le fond, Alors que sur le reste, on ne s'entend pas. Nous, quand on parle de Rome, même le terme Rome, par exemple, le terme Rome politiquement correct, c'est aussi pour nous homogénéiser, pour nous rendre comme, homogènes, comme si on avait une culture commune, comme une langue commune, etc. Et des personnes issues de nos communautés ont aussi ce réflexe-là parce que ça les arrange aussi. C'est de dire « nous représentons la culture tzigane », alors que non. C'est un peu comme si j'étais un Amérindien et je viens de la tribu des Oglala, donc des Sioux, et je dis « moi, je suis indien et je représente par, mon appartenance ethnique Sioux, Oglala, je suis le suc de l'amérindinité, je ne sais pas comment on dit, de l'indianité amérindienne. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis en lien avec des Amérindiens aux États-Unis, et notamment au Québec, qui ne sont pas issus, par exemple, des Indiens des Grandes Plaines, mais avec qui je communique parce que c'est très riche comme culture, et qui me disent « Nous, on ne vit pas dans des tipis. Eh bien, on veut nous représenter, on voudrait qu'on soit assimilé à ça aussi. » C'est le danger pour nous, c'est ça, c'est cette globalisation.
Alors, moi, juste pour le resituer au niveau, enfin, resituer le débat au niveau de la créolisation, moi, je pense dans nos projets, on a cette espèce d'intuition que cette créolisation, c'est une piste, qu'on fait toujours des tentatives dans ce sens. Mais comment on y arrive, en fait? Comment, là, par exemple, sur ce projet du Crében, comment on va pouvoir inventer, avec les familles avec lesquelles on travaille, qui sont des familles roms de Roumanie, et puis nous, qui sommes de provenances diverses et qui sont des artistes avec notre subjectivité, comment on va pouvoir créer une troisième chose qui va pouvoir avoir la forme d'un objet plastique symbolique, qui va être imprévisible, pour employer le terme de Glissant, et à l'intersection de nous tous. Et je trouve que dans le cas de ce projet-là qu'on mène, c'est d'autant plus difficile... parce que on a des velléités de rendre compte d'une parole polyphonique, donc de ce que c'est que d'être homme et de laisser cette parole aux Roms, en fait, donc de pas du tout induire des choses, de pas du tout être ethnocentré, de pas, alors je veux pas du tout parler de neutralité, hein, mais voilà, on a quand même cette volonté, et pourtant on a notre subjectivité d'artiste, on est nous-mêmes dans nos fantasmes. On est nous-mêmes dans nos stéréotypes et dans voilà et on essaye vraiment de décoloniser tout ça, mais c'est très difficile parce que du coup on se demande quelle légitimité on a à le faire en permanence. On veut faire avec et pas pour, vraiment avec tous ensemble, et voilà. Et donc dans ce projet-là, moi je trouve que l'histoire de la créolisation, même si je pense que la relation en soi, elle crée toujours de la créolisation, en fait, elle crée toujours de la rencontre, même si on essaye d'envisager le projet vraiment avec un espace très ouvert. Où s'inscrivent les flux permanents de tout ça, eh ben, je trouve que c'est quand même pas tout à fait évident. Et à la fois, je trouve que c'est très intéressant de se poser en permanence, c'est ce qu'on fait avec les allumeurs, la question de comment on fait ce truc-là, comment on créolise, comment on met en partage, comment on mène ça, comment on fait ça.
Enfin, je voudrais faire un tout petit aparté rapide entre deux. Là, c'est créolisation, c'est justement un peu pour répondre aussi à ce que tu disais, c'est une dynamique, c'est un processus, c'est un mouvement, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en train de se faire et dont on ne sait pas ce que ça va produire. D'ailleurs, ce que ça produit est aussi en train de se faire et on ne sait pas ce que ça va produire. Le jazz, on ne sait pas ce que ça va produire. C'est pareil. Donc, c'est que du mouvement tout le temps. Et il y a quelque chose peut-être qu'on n'ose pas dire. Moi, je le dis à titre personnel, hein, c'est un point de vue. Sur ce choc, c'est que c'est vraiment un choc. Et là, il y avait un peu un paradoxe dans ce que tu disais. C'est un peu comme si tu disais, comment est-ce que je vais faire pour prévoir l'imprévisible, tu vois. Mais ce dont parle Glissant, c'est de choc, de vrai choc, avec de la douleur, je veux dire. Avec de la douleur, avec quelque chose qui produit inévitablement une réponse. Pas parce que ça a été pensé, pas parce que ça a été désiré, mais parce qu'il fallait le faire, quoi, une réponse.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre chaos et communion, mais ça, on le sent bien à longueur de temps, voilà, que ça produit toujours quelque chose. Pas toujours au rendez-vous de ce qu'on va attendre, de ce qu'on va espérer, mais c'est sûr que ça produit toujours quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, c'est de la créolisation
Après, dans ce que tu disais, quelque chose qui puisse nous représenter, nous tous, dans les communautés, c'est compliqué. Il y a eu des tentatives, tu en parlais tout à l'heure, sur le drapeau, voilà. C'est...
Non, justement, qu'est-ce qu'on peut
imaginer
ce
ne sont que quelque peu d'intelligentsia roms qui ont créé ce drapeau-là et qui nous l'ont imposé. Après, nous, en France, on ne le partage pas, ce drapeau-là. Ce ne sont que quelque peu qui le mettent devant pour se dire, nous, on fait partie d'un grand tout. Mais il y a un intérêt toujours politique à dire, nous sommes une communauté unie et homogène, alors que c'est faux. Moi, je travaille autour de cette identité-là. Là, j'étais à Nancy, j'ai travaillé. Moi, je forme des ateliers avec des adultes, etc., dans lesquels quels seraient les idéogrammes, quels seraient les symboles qui pourraient nous représenter en tant que tels. Mais j'ai vu ce qu'ils produisent pour en faire une sorte d'icône drapeau ou quelque chose qui... Parce que moi je ne cherche pas à en faire un, mais je cherche à savoir qu'est-ce qui pourrait nous... comment on peut s'identifier, parce qu'on est, on est plusieurs groupes culturels, qu'est-ce qui ferait que ça nous représenterait? Et donc, du coup, c'est super disparate. Il y en a même un qui m'a sorti, ouais, plutôt qu'à la place du drapeau rhum, etc., la roue là, qui représente que dalle, pour nous, comme il me l'a dit, je préférais la roue de mon camion. Là, ça me représente. Mm-hmm. Là, je trouve que c'est, l'idée, elle est bonne, parce qu'il y a un intérêt direct avec la personne. Mais... pour vous donner un exemple, là on parle d'Inde, de sanskrit, etc., mais il n'y a que 20 ans qu'on sait ça. Mm-hmm. Il y a 30 ans, moi, quand j'avais 20 ans, je ne le savais pas. Ce sont les gradués qui nous l'ont appris. Nous, pour nous, on n'est pas... c'est la communauté non-gitane, non-tsigane, qui nous dit, vous venez d'Inde, donc forcément, vous devez puiser dans l'Inde ce qu'il vous représente, vous. Je suis désolé, non. Le chakra ou la roue, etc., ça vient d'Inde. Mm-hmm. C'est pas nous. Après, qu'on se l'approprie parce qu'on veut fabriquer une identité qui est complètement... qui a que 20 ans, cette identité-là. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce drapeau-là, il n'existait pas. Mais on savait qu'on était des gitans. C'est ça que j'essaye de dire. Où on savait qu'on était des mornouches. Parce qu'on l'est dans la famille... Parce qu'on a un socle, oui, effectivement.
Mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui. En tout cas, comment on peut penser tous ensemble le monde et être à l'intersection de quelque chose?
Alors, il y a un secret que je vais vous dire. On n'est pas un gitan tout seul. On est forcément des gitans. On ne dit jamais « je », on dit « nous ».
Parce que j'entends que vous dites le « nous » et le « je ». J'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient dans ce que vous dites entre le jeu et le nous, comme si le nous ne pouvait pas se réduire au jeu et le jeu ne pouvait pas se réduire au nous. Mais moi, le jeu, je suis moi, je et nous. C'est pareil, c'est quelque chose de très commun à tous, sauf que on le sait, on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir ou ça interroge tellement de choses.
Ouais. Je est un autre.
J'ai l'impression que vous dites à la fois que vous ne voulez pas être réduit, mais que vous voulez être singulier, particulier, mais qu'en même temps il y a un nous. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Alors, être gitan, c'est nous parce qu'on a un socle quand même. Et gitane. Moi, je parle de la culture gitane. Il y a des gitans, il y a des sintés, il y a des manouches, etc. Globalement, comme disait tout à l'heure Bruno, je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure, c'est vrai que notre langue, il y a un squelette de langue qui est commun à nous tous, mais après, dans la contemporanéité, on n'agit pas de la même manière devant des situations qui arrivent. On n'est pas contre d'être dénommé, mais qu'on nous dénomme juste, d'une façon juste. Un Breton, il ne sera pas alsacien. Et ça l'embêterait qu'on lui dise, écoute, oui, mais breton-alsacien, c'est à peu près pareil. Non, on s'appuie quand même sur un socle culturel gitan, par exemple. Moi, je connais mieux ma culture gitane je connais mieux la culture gitane et mandouche parce qu'une partie de ma famille, ce sont des mandouches aussi. Je connais mieux ça, par exemple, que la culture rome. Ça, c'est clair. À côté de ça, on s'appuie sur des valeurs de vie. On n'a pas le même objectif de vie, par exemple, que la communauté non-gitane. Nous, on va tout axer sur un devenir qui est propre à nous-mêmes et pas propre à une capitalisation, par exemple, de biens ou d'acquérir une profession qui va nous permettre de pouvoir nous installer et d'installer nos enfants dans du minéral, par exemple. C'est pas nous. Ça, c'est
donc,
pas
donc
nous.
Donc, c'est pas une vision ethnique. Donc, c'est une vision, c'est un mode de pensée.
C'est un mode propre aux gitans. Après, je ne sais pas au niveau des Roms. Moi, je sais. Par contre, moi, je suis président d'une association qui s'appelle l'Advog et dont on a des salariés, des travailleurs sociaux, etc., qui est dans le Val d'Oise. Nous accueillons donc nous travaillons avec les gens du voyage dans les problématiques qui sont liées à la condition et l'habitat caravane. Ça, c'est clair. Nous avons aussi des Roms qui viennent dans notre association pour nous demander de les accompagner dans un devenir. Mais la demande des Roms n'est pas du tout la même, par exemple, que celle des gens du voyage et qui plus est celle des gitans et des mandouches. Eux, par exemple, les Roms ont une, vous parliez tout à l'heure très justement, c'est plutôt une approche de migrant. Ils cherchent un appartement, ils cherchent à s'insérer dans une vie active de salariat, etc. Combien même que la culture qu'ils ont, elle leur est propre. Ça, c'est indéniable. Alors que, par exemple, quand on accueille, nous, les mandouches et les gitans, ils sont profondément hostiles au travail salariat, par exemple. Moi le premier. Donc, parce qu'on veut pas, on veut pouvoir travailler à tempérament. On veut pouvoir pas miser nous. Moi, je vous parle encore une façon nous et de m'écarter, de pas homogénéiser, parce que je pourrais pas répondre en lieu et place des autres. Je veux bien le dire par rapport à la culture. Moi, quand je suis né, je savais pas que j'étais gitan, mais comme je vivais que avec des gitans, c'est le dehors qui me disait vous êtes des gitans. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, en grandissant, on le sait qu'on est des gitans parce que on mise pas sur la même chose. Nos enfants, on les élève pas de la même manière. Ils mangeront pas pareil. On va pas. Par exemple, je sais pas sur n'importe quel détail, je pourrais vous dire que nous c'est à l'envers en fait. Et ça veut pas dire que c'est mal. C'est juste pas la même. C'est pas le même objectif.
Et Tania, pour toi, c'était complètement différent.
Eh bien, pour moi qui suis une enfant adoptée. Je savais que mon père était gitan, mais il y avait un secret de famille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai erré de famille en famille pour le retrouver. Et c'était tellement fantastique, tout ce que m'expliquaient les familles ou les artistes. Oui, Tania, mais on peut faire ceci, on peut faire cela. Moi, je travaille de cette manière, je produis ceci ou cela. Pas obligatoirement dans une démarche de salariat, d'ailleurs. Et toutes ces rencontres ont fait que j'ai voulu mener à bien des études. Sinon, je n'aurais jamais soutenu deux thèses, en fait. Donc, comme l'expliquait Gabi, je pense que la part intime de gitanité ou de romanité, c'est vraiment notre ressenti vis-à-vis du regard dégagé. Pourquoi ? Parce que parfois, on est vraiment réduit à peu de choses, alors que, oui, que nous aussi, nous avons des valeurs. Nous aussi, nous avons des principes et des droits.
Et vous avez pris conscience de cette complexité vous, en tant que cinéaste et observatrice.
C'était notre quotidien, à chaque fois. Pour tous les films, donc on parlait du film Pologne aller-retour qu'on a fait avec Gabi. Enfin, je filmais Gabi à l'époque avec d'autres communautés. Donc, il y avait des Roms d'Albanie, il y avait des voyageurs français, des Manouches, Peggy, des Gitans. Enfin, c'était donc, en fait, ces Tziganes partaient avec des Juifs pour faire un voyage de la mémoire à Auschwitz et Treblinka. Et la chose s'était montée juste tout à l'heure, on parlait du discours de Grenoble, ce fameux discours de Grenoble par Nicolas Sarkozy, où Nicolas Sarkozy avait, dans un grand amalgame, mis les Roms, les gens du voyage, tout ça, tout le monde, tous ensemble. Les Juifs avaient réagi, enfin, des étudiants juifs avaient réagi en apportant des cajots de poules vivantes place Beauvau, alors à l'époque c'était Hortefeux, et en les lâchant place Beauvau en disant on vous rapporte les poules volées par les voleurs de poules, hein, parce qu'on sait bien que... Et donc, les communautés, enfin, les représentants d'associations de tziganes avaient été assez touchés de ce geste. Ils étaient entrés en contact avec les associations juives en disant bah, merci de ce soutien, ils en avaient discuté, etc. Ils s'étaient dit mais comment vous parlez de l'Holocauste ? Comment vous racontez ça à vos jeunes ? Les Juifs avaient posé la question aux voyageurs. Ils leur avaient dit ah, mais nous, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et les Juifs, ils disaient ah bon, vous n'en parlez pas ? Mais nous, on en parle tout le temps. Nous, on écrit, on fait des films, on y va, on a vraiment cette culture de comment ça se fait que vous n'en parliez pas, etc. Et il y a eu un moment assez fort où ils se sont dit, et si on faisait un voyage ensemble ? Alors là, c'était branle-bas le combat dans les associations de tziganes, en disant, est-ce qu'on envoie nos jeunes ? Est-ce qu'on les envoie pas ? Enfin, c'était vraiment une vraie grosse question. Ils ont décidé d'y aller avec des jeunes et des moins jeunes, donc de tous les âges, et ils ont fait un voyage. Et donc pendant ce voyage, pendant 5 jours, on allait à Auschwitz, à Treblinka, et puis le soir, quand on ressortait, on s'asseyait tous en rond, donc juifs et tziganes pour faire simple, mais on s'asseyait tous en rond et on disait qu'est-ce que ça nous avait fait, qu'est-ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on avait compris, etc. Et tout le monde cherchait un moment donné à se définir, à se redéfinir, et à se redéfinir au-delà de ce point commun d'être celui qui serait mort. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une autre histoire que celle de notre martyr ? Et tu vois, Gabi, tout à l'heure, tu disais, effectivement, nous, nos films, ne faisant pas partie de la communauté rome, on ne va pas sur le terrain des questions culturelles ou des questions identitaires, on ne va que sur celui de la société française en essayant de montrer où elle va et ce qu'elle fait. Et tout à l'heure, Zaza, tu disais, mais comment ça se fait qu'on soit si peu nombreux ? Ta question, c'est le titre, c'est « Rencontre autour des cultures roms ». Mais la question, cette question que tu poses, tu la poses au mois de mai 2019. On ne la pose pas comme ça, de manière, comme ça en l'air. On est dans une époque extrêmement anti-rome. On est dans une.
On l'a posé déjà en 2012. On l'a posé. Ça fait quand même de nombreuses années. Je vois pas que ça bouge des masses.
Non, mais c'est pas que ça bouge, c'est que ça empire. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, nous avec Valérie, quand on commence les films, on a une espèce de joie parce que c'est tellement. On parle des questions sociales et discriminantes, etc. Mais quand nous on est sur le terrain, tout à l'heure Sylvie Glissant disait la France accueille et comment les gens accueillent ceux qui sont accueillis. Nous, quand on arrive sur les terrains, c'est allons-y le café, allons-y on mange, et que ce soit les voyageurs français dans des belles caravanes qui ont de l'argent, ou que ce soit les Roms qui n'ont pas un centime et qui nous disaient on a fait des sadmalés, mangez. Et on disait mangez. Ils nous disaient non, mais on a déjà mangé, ce qui était faux. Ils n'avaient pas d'argent, ils avaient fait à manger, ils voulaient qu'on mange nous avant. Enfin, on l'a vécu nous au quotidien. Mais nous, nos films ne racontent pas ça, ils racontent comment la société française évolue et ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça fait 15 ans qu'on se dit, madame, vous disiez de manière poétique et spontanée, frottement, bien sûr frottement, parce que biologie, parce que on est issu d'une même cellule, donc bien sûr que c'est possible, mais bien sûr que non, puisque dans cette propagande, dans une société où le ministre de l'Intérieur, qui va devenir Premier ministre à l'époque, qui s'appelle Manuel Valls, dit, nous avons des modes de vie extrêmement différents. C'est quoi le mode de vie ? Qu'est-ce que tu es au coin du feu toute la journée avec ta guitare et tu manges du hérisson ? C'est ça qui fait que. Et juste pour finir et pour te donner la parole, on est dans une période de propagande, on ne peut pas appeler ça autrement. Et on était au mois de mars, en janvier, quand on avait décidé de faire la rencontre ici. Mais ce qu'on a vécu il y a 2 mois, mais c'est hallucinant. Nous qui nous battons pour dire, attendez, on est dans la propagande, Rome ou pas Rome, c'est pareil. Enfin, on est effectivement biologiquement tous à vivre ensemble, etc. Et on a eu une démonstration magistrale qu'on pouvait faire autant de films qu'on voulait. C'est Tony Gatliff qui disait ça après Liberté. D'ailleurs, il avait dit, ah non, mais on peut faire autant de films qu'on veut. Ça, c'est incroyable la folie dans laquelle on est. Il y a eu un lynchage de Rome en Île-de-France il y a 2 mois. 37 agressions à Saint-Denis, dans plusieurs villes d'Île-de-France. Après, c'était Anne-Cécile tout à l'heure qui a raconté ça, qui a raconté cette espèce de délire qu'il y a eu autour de rapt d'enfants, une camionnette blanche. Et tout d'un coup, des gens se sont sentis le devoir d'aller casser du rhum dans plusieurs terrains d'Île-de-France. Ça, à la limite, on pourrait se dire, bon, c'est déjà assez délirant. C'est vrai que c'est assez délirant que des gens se disent, je vais aller casser du rhum parce que quand même, ils volent des enfants. Okay. Mais ce qui est le plus délirant, c'est la réponse de l'État, la non-réponse de l'État. Quand on a le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveau, qui dit, après qu'il y ait eu des gens qui ont lâché des chiens sur des Roms, qui ont tabassé des Roms, qui ont brisé, cassé des caravanes, mis le feu, etc., il a dit, en effet, il s'agit de dérives inacceptables. Donc c'était dans l'article de Dominique Simoneau de Canard Enchaîné, il a dit, il aurait parlé d'un abribus vandalisé, c'était pareil. Donc des Roms se font lâcher en France et on parle de dérives inacceptables au niveau de l'État. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on dise que les Roms, les Roms ne comptent pas, ils sont pas du tout pareils, puisqu'au niveau de l'État, ça, on te dit ça. Alors,
moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur des mesures institutionnelles qui sont mises par l'État. Alors, on a eu les villages d'insertion roms qui étaient discutables. Et puis là, nous, le campement sur lequel on intervient, c'est une mousse, maîtrise urbaine et sociale. C'est un campement stabilisé où les familles, elles étaient 75 au départ, où l'État œuvre pour, entre guillemets, hein, c'est ce qu'ils disent, la sortie des familles. Alors déjà, où est-ce qu'on les sort? Bon, bref, donc on va les reloger, ces familles. Dans ce dispositif, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard, il y a des familles qui sont dans le contrat et qui vont avoir la faculté d'être relogées, et puis celles qui ne le sont pas. Évidemment, celles qui sont dans le contrat et qui vont être relogées, c'est celles qui sont le plus aptes à s'en sortir. C'est les plus jeunes, c'est ceux qui parlent français, c'est ceux qui... Voilà. Nous, notre voisin de baraque, par exemple, c'est un vieux monsieur, il est malade, il ne parle pas français, il n'est pas dans le contrat. Alors qu'il y en a bien un qui a besoin, justement, de ce dispositif. Ces familles, elles sont accueillies, si elles prouvent qu'elles sont aptes à s'adapter selon la conception française, elles vont être accueillies dans une première cité pendant 8 mois avant de rejoindre du logement de droit commun. Donc nous, évidemment, on a demandé aux travailleurs sociaux pourquoi il y avait ce sas, pourquoi il y avait ce sas pendant 8 mois, pourquoi les familles n'intégraient pas directement leur logement. Et là, on nous a expliqué qu'en fait, ces familles devaient être socialisées. Alors, c'est vrai que nous, quand on arrive, pour reprendre ce que tu racontais, Anna, quand on arrive sur le campement, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a une intelligence de la relation qui est complètement oubliée dans nos sociétés. La plupart n'ont, on va dire, rien à foutre de notre projet, mais vraiment, on est toujours accueillis aux petits oignons, avec une gentillesse incroyable. Il y a toujours du café, il y a toujours, quand on finit les ateliers, on va nous chercher des canettes à boire. Enfin, il y a vraiment une intelligence de la relation, en fait, et puis qui est nécessaire parce que elle est vitale, en fait, quand on habite dans une telle condition, des conditions sociales aussi brutales, aussi violentes. Et je trouvais que c'était un comble que notre société apprenne à ces gens qui ont cette telle intuition à être social. Alors là, vraiment, les bras nous en sont tombés, en fait. Voilà. Pour revenir sur les stéréotypes et ce que peut véhiculer notre société et son principe d'intégration qui est, moi, je trouve, néocolonial, en fait.
Je voulais juste dire sur la créolisation, qui est évidemment un processus totalement... formidable, etc. Je me dis quand même, est-ce que c'est possible que ça fonctionne réellement si on n'est pas sur un pied d'égalité avec les personnes qu'on rencontre, s'il n'y a pas de respect? On est quand même avec une population aujourd'hui, faut pas oublier, qui, en ce qui concerne les Roms roumains, part de Roumanie parce qu'elle est discriminée économiquement, c'est impossible de vivre là, d'élever des enfants là, pour arriver dans un pays où effectivement il y a un petit peu plus, il y a plus de prospérité, plus d'opportunités, de possibilités de travailler, etc. Donc d'accéder à une vie digne, mais en même temps où ils sont encore discriminés. Donc tu pars d'un endroit où tu es discriminé pour arriver dans un endroit plus prospère où peut-être ta vie va être meilleure, mais où tu es toujours discriminé. Et on en est quand même toujours là. Et quand je fais cette phrase tout à l'heure sur la possibilité d'un pays gouverné par l'extrême droite c'est Sarajevo, quoi. C'est-à-dire, si demain quelqu'un dit c'est bien sympa, oui, les titres de séjour pour les Roms et tout, on s'est bien amusé, mais maintenant tout le monde rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je me pose la question.
C'est pas pacifié, quoi.
Même quand tu arrives là et que éventuellement tu t'intègres à ce que la France te propose, qu'est-ce qu'on te propose, en fait? Qu'est-ce que c'est cette intégration à ce système néolibéral où il y a rien, en fait? On t'intègre, pour moi, à rien du tout, à du néant, à une société complètement désincarnée. Donc même ça, on peut le questionner, en fait.
Non, mais ça, c'est une vraie question, mais. Je me dis quand même qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que.
Mais si, Anna,
c'est là que nous ne sommes pas d'accord. C'est là que c'est là la frontière d'entre nous. Non, mais Parce que y a quand même des gens qui passent leur temps à travailler, à de la rencontre au quotidien. Et elle se fabrique sur voilà, des choses extrêmement concrètes, des conteurs qui viennent, qui emmènent les enfants à la bibliothèque, qui vont recueillir des contes tziganes, enfin voilà, où on essaye des choses, où il y a des, il y a quand même
comme
en France,
Tania par exemple,
comme Tania,
à qui vous donnez le micro et vous ne laissez pas parler.
Non, mais c'est parce que je suis timide en fait. Voilà, je voulais vous signaler que notre association bordelaise fonctionnait mal à Bordeaux, ville plutôt raciste, on va dire. Mais nous étions reconnus et fêtés et célébrés à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, pour le Balkan Traffic. En fait, grâce à notre association, nous avons pu rémunérer des artistes ou faire rémunérer des artistes qui étaient sur la voie de la reconnaissance artistique et culturelle. Et grâce au Balkan Traffic, Mille Une Valise et Monsieur Nicolas Weyers et son équipe, Gabi et nous avons pu exposer une ou à plusieurs reprises là-bas. Il y avait Gardner, Lioba, Tony Gatliffe. Mais moi, l'événement qui m'a le plus marqué là-bas à Bruxelles, c'est une spectatrice. Gabi vient et m'amène de quoi déjeuner, en fait. Et une spectatrice me dit « Ah, mais madame, finalement, votre folklore, c'est d'avoir tout le temps du linge aux fenêtres. » Et là, Gabi dit « Attendez, madame, nous ne faisons pas de l'art folklorique. Il se trouve que certaines familles qui sont nomades en caravane doivent étendre le linge. C'est le quotidien, c'est pas que du folklore. » Si tu veux.
Non, c'est vrai.
Attends, je vais juste ajouter un truc.
Je vais juste préciser qu'on va essayer de conclure rapidement, parce qu'il y a le Duc Reben Band qui aura une demi-heure pour. Ouais.
Non, voilà. je voulais juste dire
avec plaisir, Valérie. Voilà, mais ensuite,
non, mais par rapport à ta question, parce que tu t'as démarré en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Et moi, la sensation que j'ai, on connaît très bien, Anna et moi, le travail de Tania, puisqu'on se connaît depuis très longtemps et on adorait ça. J'ai l'impression qu'il faut. Tout le temps dans cette volonté de frottement. Le frottement, dans mon esprit, il a vocation à ce que les populations discriminées, opprimées, qui vivent de façon précaire, vivent mieux. Enfin, moi, mon travail de documentariste, Anna aussi, c'est, on va là, on essaie de créer des déclics pour qu'une personne, un jour, se promène et se dise ah « bah, tiens, je vais aller dire bonjour aux gens de ce terrain » et se rendre compte que non, ils n'ont pas envie de vivre comme ça. Oui, c'est difficile et pénible, etc. Donc j'ai envie de penser que tout ce qu'on peut faire allant dans une zone artistique, etc., doit aujourd'hui viser à donner des outils pour que les personnes roms, hein, les personnes que nous on connaît mieux, puissent réagir. À chaque fois, on a fait des. Le film qu'on a fait, donc 8 Avenue Lénine, a une version entièrement doublée en roumain, sous-titrée en français. Donc, ce qu'il disait, c'est d'inverser le paradigme, d'obliger des personnes françaises à voir le film entièrement sous-titré. Et on a fait des projections sur des terrains. Et voilà. Et à chaque fois qu'on a rencontré, c'est récent, c'est l'année dernière, sur les terrains, des jeunes personnes roms qui enfin ont créé des associations, etc., on voit bien que ça se passe complètement différemment. Donc voilà, que ça se structure. Après, à l'intérieur de ça, on peut faire, je pense, effectivement des tas de choses magnifiques, artistiques, etc. Mais je veux dire, on est confronté à une population sur notre territoire magnifique, pays des droits humains, qui est absolument discriminée. Donc,
Tout à fait, oui. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup.
R22 Radio, tout le monde et autres.
Les allumeurs.